VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 15 mars 2016. Anne Alberson et John Lyndon en votre compagnie au sommaire ce matin.
Attaque de Grand Bassam, le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa solidarité avec la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara s'est quant à lui adressé à la nation hier.
Nous mettons tout en œuvre afin d'assurer la sécurité de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui vivent sur notre territoire.
La Russie retire la majeure partie de son contingent déployé en Syrie. Vladimir Poutine en a fait l'annonce à la surprise générale.
Présidentielle américaine tournant décisif ce mardi avec des primaires dans 5 États, dont la Floride et l'Ohio. Côté républicain, Donald Trump tentera de consolider son avance.
We have a movement going on, folks. This isn't just us here. This is all over the country.
Nous avons un mouvement en marche. Ce n'est pas seulement ici, chers amis. C'est pareil à travers tout le pays, dit Donald Trump.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal.
Au lendemain de l'attaque djihadiste qui a fait 18 morts dans une station balnéaire près d'Abidjan, le président ivoirien s'est adressé à la nation dans une déclaration radio-télévisée. Alassane Ouattara a annoncé un deuil national de 3 jours et promis des mesures de fermeté contre les terroristes. On l'écoute.
Face à ces actes, le peuple ivoirien uni ne se laissera pas intimider. Notre peuple est un grand peuple. Ces actes barbares renforcent notre conviction que c'est ensemble que nous allons relever les défis auxquels notre pays est confronté. Le terrorisme auquel nous faisons face est régional et international. Nous continuerons notre collaboration avec les pays de la sous-région du continent africain ainsi qu'avec nos autres partenaires internationaux afin de renforcer notre coopération pour combattre ces terroristes. J'ai donné des instructions fermes pour que le dispositif de sécurité soit encore plus renforcé sur toute l'étendue du territoire national, notamment sur la côte et à nos frontières. Nous mettons tout en œuvre afin d'assurer la sécurité de tous les Ivoiriens et de tous ceux qui vivent sur notre territoire.
Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire.
L'Union européenne va entamer un travail en interne pour sanctionner des personnes qui entravent la formation d'un gouvernement d'unité nationale en Libye. C'est ce qu'a annoncé hier la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Des détails avec Jacques Aristide.
L'UE n'a toutefois pas pris de décision devant le manque d'enthousiasme de l'ONU. Les ministres européens des Affaires étrangères ont ainsi préféré temporiser sur l'imposition de sanctions contre 3 responsables libyens. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, a déjeuné avec les 28 chefs de la diplomatie européen pour faire le point sur la formation d'un gouvernement d'unité, un processus qui tarde à se concrétiser et qui n'a pas reçu le feu vert du Parlement reconnu par la communauté internationale. L'émissaire onusien avait auparavant affirmé que la question des sanctions n'était pas à l'agenda de l'ONU. Le conseil présidentiel libyen, composé de membres de factions rivales libyennes, a proclamé samedi l'entrée dans ses fonctions du gouvernement d'union nationale qu'appelle de ses voeux l'ONU, même si le vote de confiance requis du Parlement n'a pas eu lieu.
Au Bénin, l'homme d'affaires Patrice Talon, arrivé deuxième au premier tour de la présidentielle, a reçu lundi le soutien de 24 candidats, dont Sébastien Ajavon, arrivé troisième, pour affronter le premier ministre sortant, Lionel Zinsou, au second tour de la présidentielle. Messieurs Zinsou et Talon sont arrivés en tête avec respectivement 27,11% et 23,52% des voix. Un second tour doit les départager dimanche prochain. Au premier tour, le taux de participation était de 64,0%.
Au Niger, l'opposant Mahamadou, détenu depuis 4 mois et candidat au second tour de la présidentielle du 20 mars, a été hospitalisé pour la seconde fois en quelques jours après une aggravation de son état de santé, a affirmé lundi son médecin personnel Haruna Yakuba. Monsieur Amadou, âgé de 66 ans et qui souffre des yeux selon ses partisans, avait déjà été admis vendredi dans un dispensaire de Filingué pour y être soigné. La cour d'appel de Niamey, qui a examiné lundi une demande de liberté provisoire pour Monsieur Amadou, rendra sa décision le 28 mars. Nous y reviendrons dans la partie magazine de cette édition.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président russe Vladimir Poutine a créé la surprise hier en annonçant le retrait de la majeure partie du contingent russe déployé en Syrie. Éric Manirakiza.
Mission accomplie, juge le leader russe en précisant par ailleurs que le retrait de la majorité des soldats russes commence dès aujourd'hui. Après un entretien avec Bachar al-Assad, M. Poutine a fait savoir que la Russie va conserver un site de maintenance de vol sur le territoire syrien. Le Kremlin ne précise ni l'emplacement du site ni les types d'avions concernés. Depuis l'entrée en vigueur de la trêve le 28 février, les militaires russes ont fait recours à des drones. Moscou a déployé depuis le 30 septembre plus d'une cinquantaine d'avions de combat, bombardiers et hélicoptères. Leurs frappes ont permis à l'armée syrienne de reprendre du terrain face aux rebelles. L'annonce surprise du président russe intervient le jour où a débuté à Genève d'un nouveau cycle de négociations indirectes entre régime et opposition pour tenter de mettre fin à la guerre syrienne. Staffan de Mistura, envoyé spécial de l'ONU, a affirmé que la mère de toutes les questions est de trouver un accord sur une transition politique.
Signalons que le Conseil de sécurité de l'ONU a jugé positive l'annonce par la Russie de ce retrait militaire de Syrie, a indiqué lundi à la presse son président, le représentant de l'Angola, Ismaël Gaspar Martins. Cette initiative a été rendue possible par la bonne coopération entre les États-Unis et la Russie, a-t-il estimé, à l'issue de consultations à huis clos du Conseil sur la Syrie. Le président des États-Unis Barack Obama et son homologue russe Vladimir Poutine ont évoqué au téléphone le retrait partiel des forces russes de Syrie, a indiqué la Maison-Blanche. Selon le représentant de la Russie à l'ONU, ce retrait s'explique par la volonté de Moscou de promouvoir un règlement politique du conflit syrien. Cette décision montre notre profond engagement en faveur d'un processus politique, a-t-il affirmé.
Ici, aux États-Unis, la campagne électorale prend un tournant décisif ce mardi avec les primaires de Floride, de l'Ohio et de trois autres États. Chez les Républicains, une victoire de Donald Trump est presque certaine en Floride. Mais selon les sondages, la lutte sera très serrée dans l'Ohio, où le gouverneur John Kasich espère freiner l'élan du mania de l'immobilier. Chérubin Dorcil nous en dit plus.
Contrairement à la Caroline du Nord, le Missouri et l'Illinois où le vote est proportionnel, en Floride et dans l'Ohio, le candidat qui arrive en tête des résultats ce soir remporte la totalité des délégués à la convention du parti. Les derniers sondages placent Donald Trump à au moins 16 points devant Marco Rubio dans son propre état, la Floride.
We have a movement going on, folks. This isn't just us here. This is all over the country.
Nous avons un mouvement en marche. Ce n'est pas seulement ici, chers amis. C'est pareil à travers tout le pays, dit Donald Trump. Dans l'Ohio, Trump et Kasich sont statistiquement à égalité. Ce dernier a fait campagne hier en compagnie de l'ex-candidat Mitt Romney, qui a fait récemment une sortie virulente contre Trump. Kasich n'est guère pressenti comme le choix éventuel du parti, mais il reste confiant. Il dit ne pas croire que Donald Trump recevra l'investiture du Parti républicain. « Je vais remporter l'Ohio. Nous faisons des progrès dans tout le pays », a assuré le gouverneur de cet État du Midwest. Ces derniers jours, beaucoup d'emphase a été mise sur les violences caractérisant certains meetings du candidat Donald Trump. Mais malgré le chaos apparent, il continue de dominer la course. Dans le camp démocrate, tous les sondages prévoient une victoire de l'ex-première dame Hillary Clinton, mais le Michigan a prouvé la semaine dernière que les sondages peuvent bien se tromper.
La police de Caroline du Nord cherche à déterminer si Donald Trump a incité les violences survenues lors d'un meeting au cours duquel un manifestant noir a été frappé par un supporter blanc. John McGray, 78 ans, a été arrêté et inculpé d'agression, voie de fait et trouble à l'ordre public pour avoir frappé d'un coup de poing au visage Rakim Jones, un noir de 26 ans alors qu'il était escorté lors du meeting à Fayetteville par des agents de sécurité. McGray doit comparer paraître devant la justice le 6 avril. Donald Trump est accusé par ses critiques d'inciter ses partisans à la violence et d'alimenter une atmosphère de plus en plus toxique autour de ses meetings et de sa campagne en général.
Plusieurs centaines de migrants exaspérés par les conditions de vie au camp d'Idoménie en Grèce ont réussi lundi à franchir la frontière avec la Macédoine, close depuis une semaine en traversant une rivière en crue, et ce avant d'être arrêtés.
Tinkia, un fidèle compagnon de dissidence d'Aung San Suu Kyi, est devenu le nouveau président de la Birmanie, le premier démocratiquement élu depuis des décennies après un vote du Parlement mardi. La Ligue nationale pour la démocratie, qui a largement remporté les législatives de novembre, a proposé le nom de ce proche de la prix Nobel de la paix, qui ne peut elle-même devenir présidente en raison de la constitution héritée de la junte. Il a été élu par 360 voix sur 652 députés. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
La livre égyptienne dévaluée de 14,3%. La Banque centrale égyptienne promet d'adopter une politique de change plus souple pour faire face aux difficultés économiques du pays. Le taux de change de la monnaie égyptienne a été porté de 7,83 à 8,95 livres pour un dollar. La pression s'était accentuée ces deux derniers mois et le taux de change du billet vert avait atteint au marché noir 10 livres égyptiennes, un niveau quasiment sans précédent. Avec 6,1 milliards de dollars en 2015, les revenus de ce secteur clé ont chuté de 15% par rapport à l'année précédente, selon les statistiques officielles. La dévaluation de la livre peut améliorer la compétitivité des produits égyptiens sur les marchés étrangers, entraînant ainsi une hausse des exportations. Selon l'Organisation internationale du travail, quelques 60 millions de travailleurs domestiques dans le monde n'ont pas de protection sociale. Pour la directrice du département de la protection sociale, Isabelle Ortiz, l'immense majorité des travailleurs domestiques sont des femmes. Elles représentent 80% de l'ensemble des travailleurs du secteur. Une femme sur 13 est une femme de ménage et un homme sur 100 est un homme de ménage. En Italie, 60% des travailleurs domestiques ne sont pas déclarés et ne cotisent pas la sécurité sociale. Les travailleurs domestiques font partie des salariés les plus mal payés au monde.
C'était la Minute Éco. Merci Arzuma. Eric Manirakiza est là pour les sports. Eric, bonjour. On commence avec le football. Sofiane Boufal choisit le Maroc.
Annonce faite hier par la Fédération royale marocaine de football. Le milieu de terrain franco-marocain de Lille a choisi de jouer pour le Maroc, qu'il a convoqué pour disputer deux matchs des éliminatoires de la CAN 2017 en mars.
Coupe d'Angleterre, Everton attend Manchester United.
Manchester United tenu en échec, un but partout à Old Trafford par West Ham, affrontera Everton en demi-finale de la Coupe d'Angleterre s'il parvenait à battre les Hammers en quart de finale à rejouer, selon le tirage au sort effectué ce lundi. L'autre demi-finale mettra aux prises Crystal Palace et Watford, tombeurs du double tenant du trophée Arsenal 2-1 à l'Emirates Stadium dimanche.
Champions League, Atlético PSV Eindhoven, Simeone espère un Griezmann à la hauteur.
L'attaquant français Antoine Griezmann doit fournir une réponse à la hauteur des besoins offensifs de l'Atlético Madrid. Aujourd'hui en huitième de finale, retour de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. À l'aller, le match s'était soldé par un score nul de 0 partout. C'est l'avis de son entraîneur Diego Simeone. Meilleur buteur de l'Atlético cette saison, Griezmann compte 23 buts toutes compétitions confondues, dont 16 en Liga et 4 en Ligue des Champions.
Et puis l'agence britannique antidopage associée au CIO en vue des JO de Rio.
L'agence mondiale antidopage a demandé à l'agence britannique antidopage, UCAD, de superviser les efforts destinés à éradiquer l'usage de produits dopants en vue des Jeux olympiques de Rio du 5 au 21 août, a annoncé ce lundi l'UCAD. Concrètement, l'UCAD servira de secrétariat à la force d'intervention antidopage du Comité international olympique qui doit mettre en place des procédures standards de contrôle à travers le monde. Enfin, avec toi John, les résultats des matchs de la NBA disputés hier soir.
Oui, Eric, c'est quelques résultats de la NBA. Donc, Charlotte s'incline face à Dallas 96 à 107. Chicago prend le dessus sur Toronto 109 à 107. Washington écrase et décroît 124 à 81. Miami s'impose devant Denver 124 à 119. Houston domine Memphis 130 à 81 et puis Oklahoma bat Portland 128 à 94.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
John Lyndon en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, la Côte d'Ivoire. En réaction à l'attaque djihadiste ayant fait près d'une vingtaine de morts dimanche dans la station balnéaire de Grand Bassam, proche d'Abidjan, le Conseil de sécurité de l'ONU a unanimement exprimé lundi sa solidarité avec la Côte d'Ivoire et les pays de la région dans leur lutte contre le terrorisme. Les Ivoiriens, eux, tentent tant bien que mal de se remettre de cette tragédie. D'Abidjan, un reportage de notre envoyé spécial Émilie Yop, présenté par Lionel Gaïma.
Lundi, au lendemain de la sanglante attaque terroriste de Grand Bassam, les rues d'Abidjan grouillaient de monde comme d'habitude. Mais rien n'est plus comme avant, déplore Yao Gueye, un habitant de la capitale économique ivoirienne.
La psychose est installée, elle est grande. On a même peur qu'il puisse venir à Abidjan.
Al-Qaïda dans le Maghreb islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque de Grand Bassam. Il faut dire que toute l'Afrique de l'Ouest était en alerte ces derniers jours après les récentes attaques contre des hôtels de premier plan à Bamako et à Ouagadougou. La station balnéaire de Grand Bassam était prisée tant par les Ivoiriens que les expatriés. Les djihadistes, eux, ne font aucune différence, souligne Hugues Kouamé, un autre habitant d'Abidjan.
Le mode opératoire, on pense qu'il a changé. Il ne vise plus les Européens, tout le monde y compris. Hein. Donc là, ça devient... on est tous concernés.
Pour beaucoup d'Abidjanais comme Adama Koné, la choquante attaque de dimanche n'a pas vraiment surpris.
C'est pas surprenant. Avec l'importance de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, économiquement et politiquement, on savait que ça allait arriver, mais voilà, mais quand ça allait arriver, bon, ça, on savait pas.
Roland Guina, marchand de rue, pense que la solution viendra avec un renforcement de la sécurité.
Oui, ça a été renforcé, mais on veut qu'on renforce encore la sécurité plus fort que ça, pour ne jamais que ces choses arrivent.
Stéphane Tano, lui, n'a pas l'intention de modifier son train de vie.
Si moi, j'exerce une activité où il y a du monde, je ne vais pas arrêter d'y aller parce que, voilà, on vit, de toute façon, on vit avec le risque tous les jours.
Les autorités ivoiriennes promettent de tout mettre en œuvre pour faire aboutir l'enquête sur l'attaque du 13 mars contre Grand Bassam.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM.
L'attaque djihadiste contre la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam remet sur le tapis la question sécuritaire pour les pays ouest-africains. Pour une analyse, Jacques Aristide s'est entretenu avec le docteur Bakary Sambé, fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique au sein du Timbuktu Institute African Center for Peace Studies au Sénégal.
Premièrement, la question de la porosité des frontières maliennes, que j'ai définie comme étant un ventre mou qui risque de poser des problèmes de stabilité à tous les pays qui lui sont voisins. La deuxième chose, c'est les défaillances en termes d'approche régionale et interrégionale pour ce qui est de l'extrémisme violent qui, à mon sens, ne peut être vaincu par un seul État. La troisième chose, c'est que nos États sont dans une forme d'impréparation par rapport à la transnationalité des acteurs qui, depuis des années, est en train de challenger le principe même de souveraineté des États. Du moment que le problème n'est pas résolu au Mali, on a vu son extension récemment au Burkina Faso, d'abord avec les événements qui sont passés à la gendarmerie de Houssi, avant qu'on analyse aux attentats du Splendide, on a vu aussi aujourd'hui, même pas une semaine après qu'on ait aperçu et repoussé les éléments djihadistes en provenance de la Côte d'Ivoire, qui ont été repoussés à la frontière malienne et qui s'attaquaient aussi à une gendarmerie. Donc la question du djihadisme est devenue préoccupante pour tous nos pays et qu'il faudrait s'y atteler de manière collective, mais aussi de manière régionale, voire interrégionale.
Justement, j'allais vous demander, après le Burkina Faso, le Mali et maintenant la Côte d'Ivoire, un autre pays de la sous-région qui pourrait être visé par les djihadistes est votre pays, le Sénégal, d'après des analystes. Partagez-vous cet avis?
Les attentats de Ouagadougou ont signé la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest. Et le Sénégal est resté depuis très longtemps cet îlot de stabilité dans un océan d'instabilité. Pour qu'il le demeure, justement, il faudrait des mesures idoines et une coopération avec les pays de la région, mais aussi avec les partenaires internationaux.
Mais justement, pourquoi le djihadisme se répand-il à ce point en Afrique de l'Ouest? Et sera-t-il possible d'y mettre un terme?
Je crois que l'Afrique est en train de devenir le nouveau terreau de ces mouvements djihadistes dans un environnement où il y a une forte concurrence entre Daesh et les autres mouvements comme Acmi, Al-Murabitoun, etc., qui aussi veulent prouver leur existence malgré la prédominance de Daesh.
Le docteur Bakary Sambi, directeur du Timbuktu Institute African Center for Peace Studies de Dakar.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
La Cour d'appel de Niamey a examiné lundi une demande de mise en liberté provisoire pour Abba Amadou, candidat à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Monsieur Amadou est incarcéré à 180 km de la capitale dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés. Ses avocats ont, entre autres, avancé son état de santé comme argument pour demander cette mise en liberté. La Cour se prononcera le 28 mars. Le reportage à Niamey de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Il a peur de lui, il a peur de lui. Et c'est un homme, il a peur de lui.
Quelques militants du parti de Hama Amadou à la cour d'appel de Niamey, une fois encore déçus d'apprendre que leur leader va continuer d'attendre en prison jusqu'à la fin de ce mois de mars pour connaître son sort. Les trois juges de la cour d'appel ont en effet décidé de renvoyer le délibéré de l'examen de cette nouvelle demande de mise en liberté provisoire au 28 mars prochain, malgré la demande des avocats de Hama Amadou qui voulaient qu'il délibère sur le champ. Des avocats qui ont soutenu leur demande de mise en liberté provisoire par trois grands arguments. Maître Souley Oumarou.
Nous avons invoqué des raisons médicales. Nous avons également rappelé la définition qui a été donnée à la garantie de représentation. Est-ce que Hama réunit les conditions telles qu'elles ont été définies par la loi? Et troisièmement, nous avons même dit, même si c'est une liberté sous caution, qui est accordée même aux étrangers qui peuvent justement fuir après la liberté provisoire, on veut la lui accorder. Je suis convaincu que l'un de ces arguments va prospérer. Nous attendons de voir le verdict le 28 mars, Inch'Allah. Si la décision ne nous est pas favorable, nous dirons les raisons pour lesquelles nous sommes d'accord ou pas d'accord.
La date du 28 mars a été retenue par les trois juges de la cour d'appel de Niamey parce qu'il n'y a aucune autre avant elle prévue pour les délibérer. Mais même à cette date, les partisans de Hama Amadou ne croient pas à une sortie de prison de leur président. Tant que ce sera le président Issoufou Mahamadou qui est au pouvoir, Hama Amadou ne pourra jamais sortir, à lancer un de ses partisans. En rappel, vendredi dernier, une évacuation sanitaire du président du Modène F. Aloumane Africa de sa prison de Filengué à l'hôpital national de Niamey avait été annulée par les autorités selon son entourage. Sur sa propre initiative, clame le gouvernement. Arrêté le 14 novembre à son retour de Paris dans le cadre d'une affaire de trafic de bébés, Hama Amadou affrontera dimanche prochain pour le second tour de la présidentielle, le président sortant Issoufou Mahamadou. Il a maintenu sa candidature alors que son parti et les autres partis membres de l'opposition qui soutiennent sa candidature ont suspendu leur participation au processus électoral et appelé à un boycott actif du scrutin de dimanche. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Comment fournir des compétences en anglais et faciliter la pratique de cette langue par tous? La réponse semble avoir été trouvée à Lubumbashi, en tout cas au lycée Twendele. Le CALI, entendu Congo American Language Institute, vient de lancer son programme de formation pour l'année 2016-2017. Baptisé Access Program, il sera suivi cette année par plus de 100 élèves. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Narval Mabila à Lubumbashi.
Réunis dans la grande salle du lycée Tundélié, les 100 élèves, fils et garçons des humanités qui ont été sélectionnés dans plusieurs écoles de Lubumbashi ont participé avec leurs parents au lancement du programme de formation Access Program, qui consiste à la formation en anglais, et cela pendant 2 ans. Initié par les départements d'État sous la supervision de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, avec comme pourvoyeur Kali, Congo American Language Institute, qui coordonne les activités. En voici des explications de Madame Edith, qui est la directrice de Kali.
Provider of the Access Program.
C'est le pourvoyeur du programme, OK? American Language Institute.
The program lasts until December 2017.
En fait, c'est le programme, c'est pour 2 ans. Pour 2 ans jusqu'au fin 2018.
We expect that the children will learn enough English to go forward if they want to maybe take the TOEFL, which will allow them to compete for American universities and scholarships, perhaps.
Nous attendons à ces enfants qui apprennent l'anglais correctement. Ils arrivent à avoir les habilités qu'il faut pour faire les tests, passer les tests de TOEFL et devenir très compétitifs dans le marché.
Tous les élèves ont reçu des certificats et kits scolaires gratuitement et sont répartis en 5 centres de formation, dont Céline Mazoua, qui est du centre du lycée Odari de la commune Ouachi, qui nous donne ses impressions. La plupart des parents découvrent Access Program. Tous croient à des opportunités qu'offre cette formation pour leurs enfants. Monsieur Diédoné Banza.
C'est la première fois que j'entends parler de ce type de formation. Nous ne savons pas exactement ce qu'il y a à l'issue de cette formation, mais ça nous plaît parce que ça va ouvrir les horizons à nos enfants. On a vu juste l'invitation tomber sur le bureau du préfet. Moi, par exemple, j'avais déjà quitté l'école quand le préfet m'a rappelé. Et ma fille n'est même pas ici parce que c'était écrit aux parents de tel. C'est maintenant que je suis en train de la faire venir.
Élèves et parents ont déjà commencé à rêver américain. Le Life de Washington DC, Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Au Mali, c'est parti pour les travaux d'aménagement du paquet d'Anewal. C'est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a donné le premier coup de lame. Cette infrastructure permettra de résoudre le problème d'insalubrité et surtout de rendre la commune plus attractive. D'un coût de près de 800 millions de francs CFA, ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre du PACUM, entendu, projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Les précisions de Mamoudou Bokoum à Mopti.
Avec ce coup de lame du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat du Mali, le paquet d'Anewal, une mare naturelle dans la ville de Mopti, va connaître un nouveau visage. Oumar Papabatili, maire de la commune urbaine de Mopti.
Sa réalisation permettra de résoudre les problèmes d'insalubrité tout au long de la berge, d'où l'impact positif sur la santé des riverains, de contribuer à rendre la commune plus attractive des visiteurs et tout simplement de préserver l'environnement.
D'un coût total de 791 millions de francs CFA, l'infrastructure constitue un espoir pour les 128 000 habitants de la commune. Dramane Dambélé est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat.
Que des chemins parcourus pour qu'aujourd'hui soit qu'il recrute à un lancement des travaux d'aménagement et de protection des berges, d'un bassin naturel de restauration des eaux de ruissellement de la mythique mare de Mopti, Paguet d'Anawal. Quel magnifique espoir!
Espoir pour la population mopticienne, puisque tous ont marqué leur adhésion au projet.
Je suis vraiment très content pour la réalisation de cet aménagement de Paguet d'Anawal. Toute la population est satisfaite.
Ça va dégager les eaux usées qui seront de l'autre côté. Le Paguet va toujours demeurer. Mais d'autre côté, positif aussi de ce projet, c'est de pouvoir sécuriser ce Paguet. En tant que citoyen, moi je suis vraiment pour et j'invite aussi aux autres citoyens d'accompagner ce projet.
Ces travaux d'aménagement de Paguet d'Anawal, ça va renforcer le problème de santé de la commune urbaine de Mopti. Surtout ces eaux stagnantes-là qui ne font que de la mauvaise odeur. Vraiment, nous sommes d'accord avec cette délégation et si on peut faire plus.
Le ministre Dembélé a saisi l'occasion pour inaugurer la rue 50 de Sévaré, une autre réalisation dans le cadre du PACOM, projet d'appui aux communes rurales du Mali sur financement de la Banque mondiale. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Anne Alberson, à la console John Ellison, présentation Anne Alberson et John Linden. Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.